harcèle.
Tâchez de toujours garder un morceau de ciel au-dessus de votre vie.
C'est au moment où j'avais reconnu inconsciemment le goût de la petite Madeleine.
Un été avec Proust. Une émission de Laura El Maki.
Tâchez de toujours garder un morceau de ciel au-dessus de votre vie. Ce précieux conseil est donné au narrateur par M. Legrandin dans Du côté de chez Swann. M. Legrandin, c'est un ingénieur à la fibre littéraire qui voit déjà en notre jeune héros une nature d'artiste. Et ce morceau de ciel qu'il lui intime de garder, c'est justement ce qui pourra préserver le narrateur de la violente réalité, ce qui lui permettra de conserver, je cite, « sa jolie âme ». Ce que lui suggère en fait M. Legrandin, c'est de garder une porte ouverte sur l'imaginaire. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous parlions avec Nicolas Grimaldi de l'imagination qui faisait le malheur du sujet amoureux. Eh bien, cette semaine, nous continuons à l'étudier, cette imagination, mais nous allons essayer de comprendre comment elle se construit au travers de l'écriture. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir la romancière, essayiste et psychanalyste Julia Kristeva, qui est aussi évidemment professeure de littérature à Paris. Elle a publié en 1994 « Le temps sensible », un ouvrage de référence autour de la recherche. Et plus récemment, elle s'est attelée à une question éminemment proustienne dans son livre « Pulsion du temps », publié aux éditions Fayard. Bonsoir Julia Kristeva.
Bonsoir.
Jusqu'à vendredi, nous aborderons les thèmes de la sensation, du regard, du rêve et pour finir, du clivage de Marcel Proust. Mais ce soir, place à votre expérience de lectrice de la recherche.
Pour l'écrivain, en somme, quelle est la leçon de Proust ? Roland Barthes.
La première leçon de Proust, c'est pour les écrivains de poser une sorte d'alternative radicale, et je dirais presque chirurgicale, entre écrire d'une part et tout le reste d'autre part. La seconde leçon, si vous voulez, à mon sens, c'est que pour Proust, la seule raison d'écrire, c'est le bonheur. Écrire, c'est être heureux pour Proust. Et alors la troisième leçon, c'est que cette écriture, toute écriture, est une sorte de retour aux profondeurs de l'être. C'est véritablement une anamnèse, comme on dit. Et cette anamnèse se fait, au fond, par comparaison d'événements, de caractères, de notations. C'est-à-dire qu'au fond, pour Proust, écrire, c'est essentiellement dégager des essences et se convertir à un essentiel qui ne surgit que par comparaison.
Julia Kristeva, Roland Barthes nous parlait à l'instant des trois leçons données par Marcel Proust. Trois leçons dont la dernière est de dégager des essences et de revenir finalement aux profondeurs de l'être. Et c'est un peu dans cette perspective que vous avez écrit votre livre Le temps sensible, dans l'idée que finalement la recherche est une exploration de la vie, non pas psychique, hein, Proust n'aimait pas ce mot, mais de la vie intime.
Oui, c'est un livre que j'ai écrit en 1994 et j'ai eu à ce moment-là le courage et je pense la formation nécessaire pour entrer dans la complexité de cette vie intime que Proust essaye d'analyser et de nous rendre à nous-mêmes sensibles et intimes et qu'il considère comme le seul antidote à l'opinion, à la littérature de notation et même à la cinématographie, nous le verrons tout à l'heure. Mais ma rencontre avec Proust date de bien plus longtemps. J'ai appris le français dans mon pays natal, la Bulgarie. Et lorsque mon français s'était suffisamment amélioré pour que notre professeur puisse nous en parler davantage et nous donner des textes importants, je suis tombée sur deux phrases que je voudrais rappeler, qui sont les suivantes. « Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. » La première et la seconde, « Le seul livre vrai, un grand écrivain n'a pas à l'inventer, puisqu'il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire. » Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur. Et ces deux phrases ont étrangement résonné pour moi, avec un événement extraordinaire qui est la fête de l'alphabet qu'on fête dans mon pays natal.
La fête de l'alphabet en Bulgarie.
La fête de l'alphabet qui est unique au monde, je crois, parce que l'alphabet slave a été inventé par deux moines, Cyril et Méthode, et tous les 24 mai, les élèves des écoles, les intellectuels, les professeurs, les écrivains manifestent en arborant une lettre. Et j'étais une lettre. Une lettre qui vous donne le sentiment d'être à la fois le sens, mais que vous portez dans votre corps, sur votre corps, et ce sens est indissociable de la chair. Le verbe se fait chair, la chair est en mots, et cette expérience-là est extrêmement importante parce que vous êtes à la fois dans le sens et dans une perte de sens. Vous vous diluez dans les chansons, dans les parfums, dans la liesse de cette foule. Cette expérience-là a quelque chose d'extatique, on se perd et on se retrouve dans la culture. Et j'ai eu le sentiment à ce moment-là que les phrases de Proust signifiaient quelque chose que j'avais vécu et qu'il s'agissait d'entrer au fond de soi-même, comme dans un livre, pour les traduire dans un autre. Alors, et c'est ce travail d'interprétation du texte qui va devenir par la suite mon métier, que j'essayais d'appliquer à Mallarmé, à Céline, à d'autres écrivains, mais qui, me semble-t-il, est encore plus important et plus organique, plus lié à l'essence de l'œuvre de Proust quand il s'agit de la recherche.
Oui, et vous avez beaucoup travaillé sur les liens entre langage et sensation. Vous parliez du verbe et de la chair, mais c'est vraiment le cœur de votre réflexion dans le temps sensible, la sensation qui semble être le moteur des actions et des réflexions du narrateur dans la recherche. Nous allons en parler toute cette semaine et je vous propose justement d'écouter cette page à laquelle vous avez fait référence. Elle est extraite du Temps retrouvé et elle est très importante parce qu'elle résume ce que doit être la tâche, la mission de l'écrivain. On écoute tout de suite Denis Podalydès.
La vue, par exemple, de la couverture d'un livre déjà lu a tissé dans les caractères de son titre les rayons de lune d'une lointaine nuit d'été. Le goût du café au lait matinal nous apporte cette vague espérance d'un beau temps qui, jadis si souvent, pendant que nous le buvions dans un bol de porcelaine blanche, crémeuse et plissée qui semblait du lait durci, quand la journée était encore intacte et pleine, se mit à nous sourire dans la claire incertitude du petit jour. Une heure n'est pas qu'une heure. C'est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climats. Ce que nous appelons la réalité est un certain rapport entre ces sensations et ces souvenirs qui nous entourent simultanément, rapport que supprime une simple vision cinématographique, laquelle s'éloigne par là d'autant plus du vrai qu'elle prétend se borner à lui. Rapport unique que l'écrivain doit retrouver pour en enchaîner à jamais dans sa phrase les deux termes différents. Le rapport peut être peu intéressant, les objets médiocres, le style mauvais. Mais tant qu'il n'y a pas eu cela, il n'y a rien. Si la réalité était cette espèce de déchet de l'expérience, à peu près identique pour chacun, sans doute une sorte de film cinématographique de ces choses suffirait. Et le style, la littérature, qui s'écarterait de leurs simples données, serait un hors-d'œuvre artificiel. Mais était-ce bien cela, la réalité? Si j'essayais de me rendre compte de ce qui se passe en effet au moment où une chose nous fait une certaine impression, je m'apercevais que ce livre essentiel, le seul livre vrai, un grand écrivain n'a pas, dans le sens courant, à l'inventer, puisqu'il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire. Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur.
C'est un passage très beau parce que l'écrivain est non seulement interprète et donc traducteur, mais il se pose la question de comment écrire la vie, par quel langage.
Oui, il est dans un univers troublant et tourbillonnant de sensorialité, au plus intime de l'intime, et d'une complexité extraordinaire qui, justement, doit se redonner dans des phrases infinies, à chaque lecture différente, et qui sont pleines de saveurs, de philosophies nouvelles. Et pour cela, il est obligé de faire des phrases avec des paperoles surimposées qui donnent cette impression de multiplicité.
Et de mouvement aussi, l'impression de mouvement, de fluctuation. Il ne veut pas traduire les faits, les actes, mais vraiment le mouvement de la vie, de l'existence. Il y a vraiment cette idée de
kaléidoscope.
Exactement.
Voilà. Donc, d'où sa résistance à ce qu'il appelle la littérature de notation et au cinématographe. Je crois que c'est très intéressant de le dire maintenant parce que nous sommes tous omnibulés, un peu intoxiqués par le cinéma. Évidemment, il ne s'agit pas de le détruire. Mais ce cinéma linéaire rate quelque chose que seul, selon Proust, l'art littéraire peut donner et qui est cette surimposition d'impressions. Ceci s'entend, bien sûr, dans cette phrase qui reprend, qui est longue, qui renvoie à des souvenirs et qui enchaîne des souvenirs, qui fait des métaphores. Mais ça s'entend aussi dans d'autres éléments du style de Proust, et c'est de cela que nous allons parler aussi, dans les personnages. Les personnages de Proust sont aussi bien des statues, qui sont inamovibles dans notre imaginaire, que ce soit Albertine ou Charlus ou Guermantes.
Oui, il parle de sculpture souvent.
C'est comme le même nom, la grande sculpture des Égyptiens qui est un géant. Et il compare ces personnages à ces statues parce qu'elles sont énormes étant donné qu'elles ont accumulé tout le temps en elles. Et en même temps, ce sont des transverbérations, il dit, des projections, comme une lanterne magique qui épouse les murs et qui, en fait, n'a pas de consistance. Pourquoi ? Parce qu'il projette dans ses personnages, dans ses statues, ses propres sensations multiples, nous venons de le voir. Et par conséquent, les statues s'effritent et nous donnent à nous, lecteurs, la possibilité de projeter nos propres sensations.
Un été avec Proust. Oh. Julia Kristeva. Laura Elmaki.
Alors, je voudrais qu'on vienne à votre expérience de lectrice de la recherche. Et dans Le Temps sensible, les dernières pages de votre livre sont assez émouvantes parce que vous parlez de vous et votre voix très discrète apparaît. Et tout d'un coup, le sous-titre du livre, Proust, l'expérience littéraire, prend vraiment un sens. Est-ce que cette lecture fait partie finalement de celle qui a changé quelque chose en vous ?
Je pense oui, parce que j'ai mis du temps entre mon expérience en Bulgarie où la lettre qui s'est imprimée en moi est devenue le livre de Proust et donc je me suis sentie en résonance avec lui. J'ai mis du temps à pouvoir entrer dans ce monde et le comprendre dans son extrême complexité qui est aussi liée à son expérience de juif et de chrétien, d'homosexuel et d'homme du siècle et de l'opinion la plus conventionnelle, et aussi bien d'écrivain que de philosophe. Donc pour cela, il m'a fallu moi-même comprendre mieux l'histoire de France, comprendre mieux les abîmes de la sexualité humaine. Et je pense en effet que tout un chacun peut le lire. Mais pour entrer vraiment dans l'unique apport que Proust représente encore pour la littérature française et peut-être mondiale, il faudrait avoir accès à l'ensemble de la culture et des cultures qui tissent le monde globalisé.
Que nous apprend Proust ? Que peut-il encore nous apprendre ? Quand vous avez lu cette œuvre, est-ce qu'il vous a étonné sur certaines choses ?
Bien sûr, il m'a étonnée sur la manière de vivre le judaïsme et le christianisme, tout en étant complètement agnostique. Il m'a fait comprendre que la bisexualité psychique est présente en chacun. Mais il m'a fait comprendre aussi que d'écrire cela, non pas en termes philosophiques, mais en termes imaginaires, rend cette expérience tangible, communicable et accessible à tous. Par exemple, mes étudiants de Shanghai sont absolument fascinés par Proust. Je me demandais s'ils étaient capables d'entrer dans ce monde et je doutais un peu. Mais quelques jours avant notre émission, je reçois à Paris une assistante de l'université de Fudan qui était notre étudiante et qui m'apporte des madeleines de Proust. Et je trouvais ça un exemple pas tout à fait symbolique et très émouvant de ce que la globalisation peut devenir comme échange de culture et comment le fin des fins, l'intime de l'intime peut être accessible à des civilisations qu'on croit être très différentes des nôtres.
Est-ce qu'en tant que romancière, parce que vous écrivez aussi des romans, avoir lu Proust, c'est un peu intimidant pour écrire après de la fiction ?
C'est très intéressant parce que, d'une part, c'est un effet intimidant et on se dit, je me dis que je ne devrais pas le prendre comme exemple parce que la compétition ne tiendra pas. Et en même temps, je vous étonnerai peut-être pas en vous disant que, puisque j'écris la nuit, parfois des romans surtout, il m'arrive de prendre des pages de la recherche, de les lire et dans cet état un peu somnolent, de me couler dans un français très vigilant et sensible. Parce qu'on peut trouver d'autres phrases de Proust à lire où il insiste beaucoup sur cet engloutissement dans tous les sens, les couleurs, les sons, les odeurs, le toucher. Et en même temps, il parle toujours d'une présence de la clarté vigilante, de la possibilité qu'il a de trouver le mot, de figurer cela. Et en le figurant, donc en l'imaginant à travers quelque chose de visible, de trouver le mot qui convient et peut-être la musique de la phrase aussi. Donc de le rendre transmissible. C'est vraiment un exercice, la lecture de Proust, que tout écrivain, je crois, doit se donner pour trouver sa propre voie, mais dans le même chemin.
Et vous, à travers donc vos romans, est-ce qu'il vous a inspiré vraiment même dans la forme, dans votre phrase ?
J'ai essayé, par exemple, dans le premier qui est Les Samouraïs, où je parlais beaucoup de l'île de Ré, de mon expérience de la grossesse avec une très grande sensibilité en soi et de soi qu'on a à ces moments-là, et mon immersion dans le paysage océanique, dans le paysage de l'Atlantique. J'essayais de décrire les marais salants, les oiseaux, pas vraiment comme Proust, mais avec cette exigence d'être près de la vibration des cinq sens, de la vibration du visible, du sensible, de l'audible et aussi du toucher.
Ces cinq sens, nous en parlerons toute cette semaine, notamment demain, autour de la fameuse Madeleine. Merci beaucoup, Julia Kristeva. Je vous donne donc rendez-vous demain pour parler de l'écriture, de cette sensation. À demain.